à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 17h30 temps universel du mardi 16 avril 2019. Abdourahman Dia et Ekia Badou à la présentation, voici les titres.
Au Soudan, le conseil militaire de transition limoge le procureur général alors que les manifestants maintiennent la pression.
En Algérie, Tayeb Belaïse, un cacique du régime, cède à la pression de la rue et démissionne de la présidence du Conseil constitutionnel.
En Libye, le gouvernement d'Union nationale a déclaré qu'il ne s'était jamais engagé à bloquer les migrants.
Les réactions se poursuivent après l'incendie qui a ravagé une bonne partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Dans 10 minutes, ne manquez pas l'information sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord, le journal.
Au Soudan, le Conseil militaire de transition a annoncé le limogeage du procureur général, tandis que des manifestants se sont encore rassemblés devant le QG de l'armée à Khartoum pour réclamer un gouvernement civil. Nathalie Barch.
Abdel Fattah al-Bourhan, chef du Conseil militaire de transition, a limogé le procureur général Omer Ahmed Mohamed, répondant à une demande des meneurs de la contestation. Des milliers de personnes ont afflué devant le quartier général de l'armée pour exiger un calendrier pour l'instauration d'un gouvernement civil. Selon des témoins, des véhicules transportant des paramilitaires de la force de soutien rapide ont été déployés sur un pont reliant Khartoum à la zone du sit-in. Hier, l'Association des professionnels soudanais a demandé que le conseil militaire soit dissous et remplacé par un conseil civil comprenant des représentants de l'armée. Elle en a fait une condition à son éventuelle participation à un futur gouvernement de transition. L'Alliance pour la liberté et le changement a déclaré dans un communiqué que la révolution n'a pas encore atteint ses objectifs et a appelé les manifestants à rester mobilisés. L'Union africaine a menacé hier de suspendre le Soudan si les militaires ne rendent pas le pouvoir aux civils dans les 15 prochains jours.
Le président congolais Félix Tshisekedi poursuit sa tournée dans le pays. Il est arrivé à Beni où des centaines de civils ont été massacrés depuis octobre 2014. Ces massacres sont attribués par les autorités aux milices ADF. Hier à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, il a tenu une réunion du Conseil de sécurité.
Au Tchad, des hommes armés ont attaqué un poste de gendarmerie à Bamba Sali, dans la province du lac Tchad, où les attaques du groupe Boko Haram se multiplient. Un gendarme est décédé et 3 autres blessés, dont 2 ont dû être acheminés à N'Djamena pour y être soignés, selon le secrétaire général de la province. Le porte-parole de l'armée tchadienne, le colonel Azem Bermandoa, n'a pas confirmé l'information.
En Algérie, le président du Conseil constitutionnel, Tayeb Belaïse, une des principales figures du régime, a présenté sa démission. Il était un fidèle du président Abdelaziz Bouteflika. Les manifestations continuent malgré sa démission, Idriss Fall.
Tayeb Belaïse a présenté sa démission au chef de l'État par intérim Abdelkader Ben Salah. Ancien magistrat, ministre de façon quasi ininterrompue durant 16 ans, il a été nommé le 10 février à la tête du Conseil constitutionnel par M. Bouteflika. Sa démission n'a pas calmé la colère de la rue. Des milliers d'étudiants ont poursuivi les manifestations à Alger et dans d'autres villes. Ils réclament le départ des 3B, à savoir le président par intérim Abdelkader Ben Salah, le premier ministre Noureddine Bédoui et Tayeb Belaïse qui vient de jeter l'éponge. Le Conseil constitutionnel est chargé de valider les candidatures à la présidentielle fixée au 4 juillet pour choisir le successeur à M. Bouteflika. La révision exceptionnelle des listes électorales a commencé aujourd'hui et devrait durer une semaine. Déjà, des magistrats et des maires ont indiqué qu'ils vont boycotter la supervision de cette étape cruciale pour la tenue du scrutin.
En Libye, le gouvernement d'Union nationale dit ne s'être jamais engagé à bloquer les migrants en Libye et a prévenu que des djihadistes pourraient même se joindre à eux si le maréchal Khalifa Haftar ne faisait pas marche arrière. Le point avec Morgane Guiriec.
Il n'y a pas du tout d'accord pour maintenir les migrants en Libye, a déclaré Ahmed Meitig, vice-premier ministre du GNA, lors d'une visite à Rome. Il a aussi prévenu qu'en cas d'avancée des troupes du maréchal Haftar, le GNA ne sera plus en mesure de contrôler plus de 400 prisonniers du groupe État islamique détenus en Libye. Matteo Salvini, qui l'a reçu ce matin, a répondu que les ports italiens sont fermés et le resteront même en cas de départ massif de la Libye. Face à cette situation, le Royaume-Uni a soumis lundi soir à ses 14 partenaires du Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution réclamant un cessez-le-feu et un accès humanitaire inconditionnel aux zones de combat près de Tripoli. Aucune date n'est fixée pour soumettre ce texte au vote et même s'il est adopté, rien n'indique qu'il sera suivi des faits sur le terrain. Le maréchal Haftar ne veut pas entendre parler de cessez-le-feu. Fayez al-Sarraj, chef du GNA, refuse tout processus politique s'il n'y a pas au préalable un cessez-le-feu.
Toujours concernant la Libye, quelques dizaines de manifestants, dont plusieurs vêtus de gilets jaunes, ont dénoncé ce mardi à Tripoli ce qu'ils ont qualifié de soutien de la France au maréchal Haftar. Des manifestants ont estimé que le soutien de certains pays à Haftar peut être considéré comme une déclaration de guerre à la Libye.
Par ailleurs, le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, a signé ce mardi une nouvelle directive contre les ONG secourant des migrants au large de la Libye. Cette directive vise surtout le navire italien Mare Jonio, le collectif de gauche et d'extrême gauche Méditerranéa qui affrète le Mare Jonio qualifie cette décision de pure propagande. Reparti dimanche en mission, le navire faisait route ce mardi vers la zone de secours au large de la Libye.
Le Parlement égyptien a voté en faveur de la prolongation de la présidence d'Abdel Fattah al-Sissi jusqu'en 2030. Le mandat actuel du président doit se terminer au bout de 6 ans, stipule l'amendement voté par le Parlement mardi. Avant de préciser, le président peut être réélu pour un autre mandat de 6 ans.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le pape François, qui s'est entretenu cet après-midi avec le président français Emmanuel Macron, a appelé à la mobilisation de tous pour que la cathédrale Notre-Dame, ravagée par un incendie, puisse redevenir le joyau architectural d'une mémoire collective. Des réactions fusent de partout après ce drame. Le point avec Irénée Hermanoumbo.
On reprendra ce reportage dans quelques instants.
Dans son message à l'archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit, le souverain pontife dit partager la tristesse des fidèles et de tous les Français et les assure de sa proximité spirituelle et de sa prière. Le pape François s'est entretenu également selon l'Élysée avec le président français Emmanuel Macron. Macron qui a aussi reçu des messages du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, du président américain Donald Trump et de la chancelière allemande Angela Merkel. Interrogé sur l'aide que pourrait apporter le Saint-Siège à la reconstruction, le cardinal Gianfranco Ravasi, ministre de la Culture du Vatican, assure que le Saint-Siège pourra envoyer à Paris ses experts si la France le souhaite. Le cardinal italien dit être impressionné par les images de Parisiens en larmes devant la cathédrale en flammes, ce qui signifie selon lui que les grandes cathédrales, les grandes basiliques, sont en réalité des corps vivants qui continuent à être construites et restructurées au fil des temps. Des promesses de dons de près de 500 millions d'euros ont déjà été faites pour rebâtir le monument le plus visité d'Europe.
Ici aux États-Unis, à 2 jours de la publication du rapport d'enquête de Robert Mueller sur une éventuelle collusion entre Moscou et l'équipe de campagne de Donald Trump, le président américain a encore dit qu'il était la vraie victime. Cette enquête est la plus grande arnaque de l'histoire politique, a-t-il tweeté. Robert Mueller avait conclu qu'il n'existait pas de preuves d'une entente entre l'équipe de Donald Trump et la Russie en 2016 pendant la campagne pour la présidentielle américaine.
En Turquie, le parti du président Recep Tayyip Erdogan a officiellement déposé ce mardi un recours pour demander la tenue d'un nouveau scrutin à Istanbul où l'opposition a remporté les élections municipales le mois dernier d'après les résultats provisoires. Un vice-président du parti au pouvoir, Ali İhsan Yavuz, a affirmé que le scrutin avait été marqué par des irrégularités, ajoutant pour preuve que son parti a fourni 3 valises pleines de documents. Par ailleurs, les opérations de recomptage sont en passe d'être terminées.
Une première aide humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge au Venezuela est arrivée mardi à l'aéroport de Caracas. Selon un responsable local, il s'agit de médicaments et de matériel médical. Le président Nicolas Maduro et le CICR s'étaient mis d'accord la semaine dernière sur l'envoi de cette aide destinée à la population vénézuélienne dont un quart a besoin d'une aide urgente selon l'ONU.
Et puis une nouvelle session de pourparlers sur la Syrie aura lieu les 25 et 26 avril au Kazakhstan. Elle est parrainée par la Russie, l'Iran et la Turquie.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco présentée ce soir par Nani Talani.
Le Suisse Glencore va recommencer à exporter une partie du cobalt de la mine de Kamoto en RDC, une des principales sources mondiales de cobalt. Après avoir détecté de l'uranium dans ses extractions en novembre 2018, cette société avait dû cesser ses ventes pour construire une infrastructure permettant d'éliminer l'uranium du cobalt. Depuis janvier, la mine de Kamoto a pu produire 930 tonnes de cobalt qui respectent les régulations selon Katanga Mining, filiale du groupe suisse et propriétaire à 75% de la mine. La Banque africaine de développement va investir 4,4 milliards de dollars entre 2019 et 2025 pour le développement de l'Afrique centrale. Ces fonds permettront de renforcer les infrastructures telles que les réseaux d'électricité, les transports, les technologies de l'information et de la communication. Ils soutiendront aussi les échanges commerciaux et les investissements dans la zone de la CIAC, dont la croissance reste faible malgré son potentiel. Pour terminer, le Parlement européen a confirmé aujourd'hui l'interdiction de la pêche électrique dans toute l'Union européenne à partir du 1er juillet 2021, en laissant la possibilité aux États membres d'anticiper l'application dans leurs eaux territoriales. Des conditions très strictes encadreront cette technique de pêche pendant la période de transition.
À présent, la page des sports avec Eric Manirekiza. Eric, bonsoir.
Bonsoir Abdou et bonsoir à tous.
Ligue des champions, on joue ce soir en quart retour. D'abord, la Juventus Turin contre Ajax Amsterdam.
Et oui, Abdou, moins d'une semaine après la première manche aux Pays-Bas, les souvenirs sont frais. Ce sont avant tout ceux d'une formidable équipe de l'Ajax, d'une bande de gamins qui n'ont peur d'absolument rien, ni du statut de ceux d'en face, ni de l'altitude de ces matchs à enjeu, et surtout pas de jouer sans cesse et toujours vers l'avant. La Juventus, qui rêve d'un triomphe en Ligue des Champions qui lui échappe depuis 1996, est donc prévenue de tout et n'a aucune garantie. Mais la vieille dame a l'arme fatale, Cristiano Ronaldo, qui totalise déjà 125 buts en Ligue des Champions.
Et Barcelone croise le fer avec Manchester United.
Le Barça aborde cette seconde manche en position de force dans son fief du Camp Nou après avoir évidemment conquis Old Trafford à l'aller 1-0. Mais les Red Devils n'ont pas peur à l'extérieur, ayant déboulonné le Paris Saint-Germain au Parc des Princes en 8e. Par ailleurs, les éliminations précoces du Real Madrid et de l'Atlético sonnent comme deux avertissements. C'est la première fois depuis 2010 que la Liga ne compte qu'un seul représentant en quart de finale de Champions League. Le coup d'envoi, c'est ce soir à 21h temps universel. Rendez-vous donc devant votre petit écran.
Deux matchs sont aussi programmés pour demain. Liverpool en position de force à Porto.
Le finaliste de la dernière édition se déplace à Porto pour confirmer sa victoire 2-0. Du match aller, après le match magistral de Mohamed Salah dimanche face à Chelsea, Liverpool semble aujourd'hui imprenable. Les Reds ont douché les Bleus 2-0 grâce notamment à une frappe incroyable de plus de 25 mètres en pleine lucarne de leur avant-centre égyptien.
Manchester City face à Tottenham.
C'est maintenant ou jamais, insiste Pep Guardiola, le technicien des Citizens. C'est le meilleur moment pour montrer à quel point nous avons grandi. Demain, nous mettrons toute notre énergie à jouer l'une des équipes les plus physiques d'Europe, a-t-il martelé. Battu dans le nouveau stade de Tottenham, 1-0, match aller. Les Citizens doivent absolument renverser la situation à l'Etihad Stadium, sous peine de tout perdre. Championnat, Coupe de la Ligue, Coupe d'Angleterre, Ligue des Champions. Tottenham devra faire sans Harry Kane pour stopper le rêve de Manchester City.
En NBA, on parle de comeback historique des Clippers qui punissent les Warriors.
Un véritable séisme, Abdou. Les Los Angeles Clippers ont réussi ce lundi le comeback le plus important de l'histoire des playoffs NBA en renversant les Golden State Warriors 135 à 131, double tenant du titre. Pourtant, mené de 31 points au troisième quart-temps, la franchise de Los Angeles a puni l'arrogance des Warriors pour égaliser à une victoire partout dans leur série du premier tour des playoffs. Disputé au meilleur de 7 matchs, un exploit incroyable.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Kiabadou et Abdourahman Dia, toujours en votre compagnie. Place à présent au dossier du jour.
En République démocratique du Congo, appel à des actions disciplinaires après le rapport de Global Witness dénonçant la vente de permis forestiers illégaux. Le député Claudel Lubaya demande que l'on donne au chef d'état-major adjoint des forces armées congolaises, le général Amissi Kumba alias Tango Fort, l'occasion de présenter ses moyens de défense. L'officier congolais est cité dans le rapport de Global Witness publié ce mardi pour violation du moratoire de concession forestière. Eddie Sango a joint le député national Claudel Lubaya.
Ce rapport de Global Witness n'est pas le premier. Il rejoint plusieurs autres rapports sur le même sujet, mais sur bien d'autres sujets, comme je l'ai dit. Et tout cela a conduit autrefois le gouvernement américain ainsi que l'Union européenne à infliger des sanctions à l'endroit d'un certain nombre de responsables congolais, dont le général Amissi. Et aujourd'hui que Global Witness revient encore sur les mêmes faits, j'estime que avec à la faveur de l'alternance arrivée à la tête du pays le 30 décembre 2018, il y a lieu que la République soit préservée de la République, comme bien sûr la hiérarchie militaire, soit préservée de toutes ces suspicions, de toutes ces dénonciations répétées. Et que pour cela, la procédure la plus simple, c'est que le ministre de la Défense, qui est l'autorité hiérarchique directe de l'officier concerné, puisse tout simplement l'ouvrir une action disciplinaire.
Mais là, on parle de la compagnie Maniema Union 2, qui appartiendrait plutôt à la famille du chef d'état-major adjoint des FARDC, mais pas lui directement.
Oui, mais pas lui directement, mais ça concerne sa famille et c'est lui qui est cité. C'est pour cette raison que pour préserver l'honneur de sa famille, pour préserver la dignité aussi de sa famille, il est important qu'au niveau de la hiérarchie militaire, spécialement au niveau du ministère de la Défense, qu'une procédure légale soit ouverte et qui est régie par la loi portant statut du militaire en son article 110 pour permettre tout simplement à l'officier concerné de fournir ce moyen de défense qui pourrait le mettre lui-même à l'abri de toutes ces dénonciations, mais aussi clarifier définitivement cette situation qui ne fait que perdurer.
Le général dont on parle ici n'a pas arraché de lui-même ses contrats, mais comment expliquer, je sais que vous n'êtes pas du gouvernement, que le gouvernement en 2018 ait révoqué des contrats attribués à des tierces pour les redonner à la compagnie appartenant à la famille du général et qui l'a revendu en 3 jours seulement aux Chinois.
Ce n'est pas sur les médias, que ce soit à la radio, à la télévision ou sur les réseaux sociaux, que cela va avoir de réponse. C'est pour cette raison que je fais appel au sens de responsabilité de l'autorité hiérarchique directe de l'officier concerné.
C'était Claudel Lubaya, député national et leader du parti Union démocratique africaine originelle en RDC.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Côte d'Ivoire est l'un des pays sérieusement menacés par le changement climatique. Les Ivoiriens ont-ils pris la mesure des dangers qui les menacent? Des partis écologiques et des ONG tentent de faire la sensibilisation. Le point avec Georges Ibrahim Tonkara, notre correspondant à Abidjan.
On avait en 1960 autour de 16 millions d'hectares de forêts primaires. Aujourd'hui, nous sommes à moins d'un million.
Antoinette Koukounion est la présidente du CCJD, le Conseil pour la cohésion, la justice et le développement, un parti écologique né en 2016. Outre l'exploitation abusive des forêts, le parti d'Antoinette Koukounion dénonce notamment la destruction des sols, l'érosion côtière, la pollution des eaux et l'émission des gaz nocifs. Pour elle, il est temps que l'écologie soit au centre du débat politique, social et économique en Côte d'Ivoire.
L'idéologie écologiste n'est pas encore perceptible sous nos yeux, mais nous avons nos arguments. Puisque nous avons les chefs de terre avec lesquels nous travaillons dans le monde rural, nous avons nos arguments qui amènent ces populations, ces communautés-là, à comprendre de mieux en mieux l'écologie.
Des ONG comme la Page Verte tentent aussi de sensibiliser les populations sur les dangers qui menacent la Côte d'Ivoire au plan environnemental. Kobena Kwame est l'un des responsables de cette ONG.
Aujourd'hui, nous pouvons dire que les Ivoiriens sont intéressés, bien que ce ne soit pas la grande majorité. Pour la plupart, c'est le manque d'informations et puis aussi des enjeux climatiques. Il y a des gens qui n'ont aucune information là-dessus.
Jarok Dadi est étudiant et milite dans une organisation écologique. Pour lui, il faut davantage de sensibilisation.
À Abidjan, par exemple, on voit encore des jeunes qui, par des gestes, montrent qu'ils ne sont pas écolos parce qu'ils peuvent même se nettoyer avec le papier Lotus et puis le jeter partout. Et les mesures d'accompagnement, c'est que des poubelles soient installées un peu partout et faire une éducation. Parce que certes, les poubelles peuvent être installées, mais s'il n'y a pas une sensibilisation, les poubelles ne serviront à rien.
Pour Marc Dobré, directeur général de Green Invest Africa, une entreprise de conseil dans le domaine environnemental, le manque d'informations est à l'origine de certains comportements.
Ce n'est pas un désintérêt. Moi, je pense que c'est d'abord une question peut-être de prise de conscience et de mentalité. On n'a pas toujours les informations, on n'a pas toujours conscience, même si on le vit au quotidien, que le changement climatique nous impacte, fait que nos rendements sont de plus en plus médiocres, que nous pouvons être à tout moment inondés par l'érosion côtière. On n'a pas toujours cette conscience-là, que les déchets qu'on gère mal ont un impact sur notre santé et sur notre cadre de vie. Donc il faut beaucoup de sensibilisation.
Il y a urgence à changer de comportement et à prendre des mesures adéquates pour faire face au changement climatique, selon Alain-Serge Kouadio, directeur de l'économie verte au ministère de l'Environnement.
La Côte d'Ivoire fait partie des pays les plus vulnérables. Nous occupons la 140e place sur 176, dont l'indice de vulnérabilité est l'un des plus élevés au monde. Et l'impact socio-économique et l'impact humain est vraiment important. Aujourd'hui, on estime entre 2 à 6% de réduction de notre PIB du fait des changements climatiques, selon un rapport de la Banque mondiale.
Selon plusieurs experts, le changement climatique menace la culture du cacao, dont la Côte d'Ivoire est le premier exportateur mondial. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Retour sur l'incendie qui a ravagé hier la cathédrale Notre-Dame à Paris. La charpente a été détruite, la toiture sinistrée, la flèche emblématique s'est effondrée. Le montant de sa restauration est estimé à plusieurs centaines de millions d'euros et pourrait durer 10 à 20 ans. Claire Morin-Jubourg a joint l'architecte parisien Louis Picot et a assisté à l'incendie.
En fait, moi, j'habite dans la Goutte d'Or, dans le 18e, donc j'ai une fenêtre qui donne sur Paris, un peu en hauteur, et j'ai vu la fumée, en fait, blanche, très importante, dans Paris, et donc j'ai tout de suite pensé à un attentat, en fait. Quand j'ai appris que la cathédrale était en feu, je recevais une amie qui est historienne d'architecture et d'art, et elle me dit qu'elle est très étonnée parce que une semaine avant ont été déposées plusieurs sculptures d'anges ou d'archanges qui étaient entre autres positionnées sur la flèche de la cathédrale. Elles ont été déposées pour des histoires de rénovation en fait. Et alors on en parlait tous les deux et on se disait que c'est comme si on avait touché à une protection qui n'était plus là et que le feu était arrivé. Et comme on est dans un lieu qui touche au sacré et à l'énergie, on s'est posé des questions, en fait, sur ce hasard, cette chronologie.
Apparemment, ce que les experts disent, les travaux de rénovation sont toujours potentiellement plus dangereux en matière d'incendie ?
Ça dépend complètement de la nature des travaux de rénovation, parce qu'en fait, pour déclencher un incendie, il faudrait du gaz, de l'électricité, ou des artisans qui travaillent avec des chalumeaux, ou des choses comme ça. S'il y avait un câblage électrique provisoire, alors oui, par exemple, qui passait dans la charpente. Mais moi, je ne sais pas comment s'est déclenché l'incendie.
Et en tant qu'architecte, avez-vous tout de suite mesuré l'importance que les dégâts allaient avoir ?
Oui, j'ai pensé à ça parce qu'une charpente en chêne très ancienne qui prend feu de cette façon-là, le chêne est un bois extrêmement dur et qui brûle très bien quand il est chaud et qu'il est en train de brûler. Donc c'est difficile à éteindre.
Êtes-vous touché par l'émotion internationale générée par ce gigantesque incendie ?
Oui, moi je trouve ça intéressant parce que finalement, ça, les gens se retrouvent reliés. C'est un événement qui relie. Maintenant, pour moi, c'est une évolution, c'est une transformation. La destruction, ça fait partie de la vie aussi. Et tout cet émotionnel humain qui est largement amplifié par les médias, je prends de la distance. Je suis assez peu touché, en fait, par la destruction d'un bâtiment ou d'un monument parce que, pour moi, ça génère de la transformation et une situation différente, voilà, nouvelle. Et j'y vois pas la fin de quelque chose ou la mort de quelque chose, mais plutôt une transformation.
C'était l'architecte parisien Louis Picot, témoin de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Les douaniers et les patrouilles frontalières des États-Unis continuent de rencontrer des difficultés pour traiter le grand nombre de migrants sans papiers qui entrent aux États-Unis par El Paso au Texas. La Voix de l'Amérique a accompagné les agents frontaliers cette semaine dans une de leurs tournées au cours de laquelle ils ont arrêté plusieurs groupes de migrants cubains et centra-américains. Un reportage de Celia Mendoza à El Paso, Texas. Le récit est d'Arzuma Compaoré.
Quelques minutes après s'être rendu à la patrouille américaine des douanes et des frontières à El Paso, au Texas, Ashley, âgée de 13 ans, accompagnée de son père Edgar Calis Murillo, décrit les difficultés qu'elle a éprouvées après avoir quitté le Honduras sans sa mère.
Nous ne pouvions pas manger, nous ne pouvions pas vraiment dormir, et des trucs de ce genre.
Selon les agents frontaliers, plus de 53 000 familles sont entrées aux États-Unis sans autorisation en mars dernier, après avoir traversé la frontière mexicaine. VOA a suivi certains de ces agents lors d'une tournée cette semaine. Carlos Antunez est agent médecin du service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis.
Au cours des deux derniers mois, nous avons enregistré une moyenne d'environ 1000 appréhensions. La semaine dernière, nous en avions entre 750 et 800 environ par jour. Cela pèse lourdement sur nos actifs, au point que nous avions dû fermer les points de contrôle du secteur El Paso pour permettre à ces agents de venir aider ceux qui travaillent ici à la frontière.
Le nombre de migrants sans papier traversant la frontière a augmenté de 370% par rapport à l'an dernier, selon les chiffres officiels publiés par les services frontaliers. Parmi les migrants sans papier, 7565 sont des enfants, ce qui représente une augmentation de 333%. Edgar Calis Murillo a expliqué à la VOA pourquoi il a pris le risque de venir avec sa fille.
Il n'y a pas de sécurité pour nos enfants. C'est effrayant de les envoyer à l'école. Même dans la rue, on ne peut pas marcher en toute sécurité parce qu'il y a tant de crimes. C'est pourquoi nous avons pris cette décision qui n'est pas facile. Vous voyez, on est exposé. Ce n'est pas facile du tout.
Et traverser la frontière américaine ne garantit pas la possibilité de séjourner aux États-Unis. Environ 3% seulement des demandes d'asile sont acceptées.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Joselle Morissin, à la console, Dan Crafton. Présentation, Abdourahmandia et Ekiabalou.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Excellente suite de programme à l'écoute de VOA Afrique.
Vous
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique, les infos.